braver ce beau temps et venir vous enfermer dans une salle de cinéma. Donc merci à vous. Merci également à Renaud Ayoutz et à toute l'équipe de la bibliothèque de Tence ainsi qu'à la municipalité et au service technique du cinéma. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la photographie. Alors évidemment, comme vous en doutez, la photographie est un médium assez multiple et protéiforme. Alors, à quoi sert la photographie? Un petit peu à tout et à rien. Nous n'allons bien évidemment pas tenter de répondre à cette question qui prendrait des semaines et des semaines. Nous allons, pour tenter d'y répondre, nous allons nous concentrer sur les débuts de la photographie. Nous allons évacuer l'aspect contemporain de la photographie où il est relativement admis, malgré quelques grincheux, qu'elle est un art d'expression à part entière. Et en s'appuyant sur l'aspect historique, notamment les débuts, c'est-à-dire sur la photographie du 19e siècle, entre sa naissance en 1839 jusqu'au tournant du siècle passé, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, voir les antagonismes qui ont parcouru la photographie, notamment est-ce un art d'expression autonome ou est-ce un simple document d'enregistrement et le résultat d'un enregistrement mécanique. Alors, pour commencer, nous allons essayer de comprendre quels sont les éléments constitutifs d'une photographie. Cela peut paraître relativement évident et on va s'apercevoir que ça l'est un peu moins qu'il n'y paraît. Alors vous avez projeté devant vous une photographie de Nadar, d'Adrien Tournachon dit Nadar, qui date de 1853 et qui représente le mime de bureau en train d'actionner un appareil photographique. Et en fait, c'est une photographie qui avait été faite par Nadar lorsqu'ils ont ouvert leur studio sur le boulevard des Capucines à Paris. Et c'était une sorte de promotion publicitaire pour leur studio naissant. Alors, pour faire une photographie, il faut trois éléments indispensables et permanents et que l'on retrouvera sur chaque photographie. Il faut donc un opérateur, autrement dit un photographe, qui est ici incarné de matière métonymique par le mime de bureau. Il faut un dispositif technique, donc un appareil photographique, mais on verra que ce dispositif technique ne concerne pas simplement l'appareil photographique proprement dit, mais également toutes les opérations aussi bien de préparation des négatifs que de préparation des tirages photographiques, dont tout ce qui concerne l'aspect technique de la photographie. Et il faut un sujet. Donc cette trilogie, si l'on peut l'appeler ainsi, auteur ou donc opérateur, dispositif technique et sujet, sont les trois éléments que je vais vous demander de garder en tête pour à chaque photographie que vous allez voir et de vous poser la question systématiquement qui est l'auteur, quel dispositif technique est-il employé et quel sujet photographié. Alors on verra que selon l'un ou l'autre, nous obtenons des résultats diamétralement opposés. Alors pour commencer, je vais vous montrer quelques sujets qui sont puisés dans la riche histoire de la photographie. J'aurais pu en présenter d'autres, mais c'est une manière pour vous de voir un petit peu la variété des thèmes qui étaient abordés à l'époque. Alors ici, nous avons un paysage photographique de Victor Regnault, qui date de 1853 et qui représente les bords de la Seine à Paris. Donc c'est une image relativement tôt, mais qui est assez caractéristique des paysages que l'on photographie à l'époque. Le portrait, qui constitue l'un des grands genres photographiques à l'époque. Alors ici, un autoportrait d'Udi Nadar, qui avait fait la photographie précédente. Les natures mortes. Ici, un photographe anonyme français d'une nature morte qui date de 1870. Des événements historiques dont la photographie s'est emparée. Par exemple, ici, la chute de la colonne Vendôme lors des événements de la Commune en 1871 à Paris. Une image qui est à la limite de notre temporalité historique dont nous parlons aujourd'hui, mais qui est la guerre 1914-1918, et qui marquera évidemment la fin d'une époque, l'époque du 19e siècle, pour entrer dans le modernisme. Un autre type de photographie pris ici au hasard, mais qui sera l'une des grandes productions de la photographie du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle communément la photographie de voyage. Ici, une photographie réalisée par Maxime Ducamp lorsqu'il est parti en Égypte avec Gustave Flaubert en 1851 et dont il a rapporté un reportage photographique assez saisissant pour l'époque, car en 1851, c'était les premières à revenir avec des exemplaires photographiques des voyages assez lointains. Alors ici, une photographie très classique et qui était une photographie d'édition qui était diffusée à destination des touristes qui venaient voyager, donc une photographie de deux femmes syriennes en costume traditionnel. Une photographie d'astronomie, alors c'est évidemment un peu plus rare, mais j'ai volontairement choisi, vous verrez des exemples qu'on ne voit pas couramment, qui est une éclipse de soleil et dont l'opérateur s'est évertué à reproduire les différentes phases sur la même plaque et à en tirer un positif unique assez étonnant. Autre photographie étonnante qui date de 1900, cette fois-ci, c'est la foudre qui tombe sur le sommet de la tour Eiffel. Et enfin, un peu plus, comment dirais-je, étonnant, cet amateur photographe qui s'est amusé, grâce à un petit montage photographique, à réaliser entre les années 1890 et 1900 des petites cartes de visite qu'il envoyait annuellement et où il s'auto-caricaturait dans des montages photographiques où sa grosse tête apparaît sur des petits corps. C'est une pratique ludique de la photographie qu'on abordera également. Alors, pour reprendre les trois éléments constitutifs de la photographie, donc auteur, donc opérateur, dispositif technique et sujet, nous allons prendre deux exemples diamétralement opposés, mais qui sont à l'intérêt d'avoir et qui sont contemporains l'un de l'autre, et l'on verra qu'en fonction des trois éléments, nous n'obtenons pas du tout le même résultat. Alors ici, nous avons une photographie du photographe français qui s'appelle Eugène Adjet, qui a travaillé en France et notamment exclusivement à Paris entre 1885 et 1926, date de sa mort, et qui a laissé derrière lui un corpus photographique assez gigantesque, puisqu'on dénombre aujourd'hui environ 35 000 ou 40 000 photographies qui ont été réalisées pendant cette période, et qui travaillait uniquement sur commande. Donc il n'y avait pas d'intentionnalité artistique a priori. Il travaillait la plupart du temps pour des archives parisiennes ou pour des bibliothèques ou pour des artistes, et il documentait le vieux Paris en plein essor et en plein modernisme, et il s'attachait à photographier le Paris qui allait disparaître. Alors ça pouvait être aussi bien des rues parisiennes, comme ici une petite rue dans le premier arrondissement à Paris, que des façades d'immeubles ou des détails d'ornementation et d'architecture. Alors, Adjet travaillait à une époque en 1900 où, on le verra, le matériel photographique s'était considérablement simplifié et il aurait très bien pu travailler avec des petits appareils photographiques souples et maniables, mais il préférait travailler à l'ancienne, c'est-à-dire en utilisant une chambre photographique assez lourde de manipulation et qui nécessitait une frontalité, c'est-à-dire la façon dont il était obligé d'aborder ces sujets de manière totalement frontale. Mais c'était son souci, c'était d'enregistrer de manière documentaire les éléments et non pas d'en faire des déformations ou des distorsions. On voit bien un opérateur qui n'est pas un artiste, qui est un photographe professionnel, un sujet qui est un sujet de commande et un dispositif photographique qui est assez lourd d'emploi. Donc on obtient ce type de résultat. Alors, à l'inverse, exactement contemporain d'Adjet, un autre photographe ici qui s'appelle Robert de Machy, qui est un photographe français et qui fait partie d'un courant artistique photographique qui s'appelle le pictorialisme et dont on verra à la fin de la conférence qu'il était une réponse à la photographie documentaire alors en vogue au XIXe siècle. Alors, on a donc Robert de Machy, qui est un photographe amateur, en ce sens où il n'exerce pas profession de photographe, mais il se revendique comme étant un artiste. Il est membre du Photoclub de Paris, qui est un photoclub à vocation purement artistique, et son sujet, ce sont les sujets qui sont hérités de la peinture traditionnelle. Donc là, une petite danseuse en tutu, qui évidemment fait référence, on pourrait penser, aux peintures de Degas, mais pas seulement. Alors, c'est pas évident comme ça sur la reproduction, mais lorsqu'on voit le tirage original, ce sont des photographies qui sont extrêmement retravaillées. Ils employaient un certain nombre d'artifices chimiques et techniques qui permettaient de repasser sur l'épreuve, donc le tirage, ce qu'on appelle des gommes bichromatées ou des tirages qu'on appelait des tirages au charbon et qui donnaient des aspects un petit peu laiteux comme ceci et qui avaient plus vocation à se rapprocher de l'approche picturale de la peinture que de l'enregistrement froid et mécanique de la photographie. Donc on voit bien à travers ces deux exemples entre Eugène Adjet et Robert de Machy qui exercent exactement au même moment qu'en employant deux techniques différentes, avec une intentionnalité opposée, nous obtenons pas du tout les mêmes résultats. Alors là où ça se complique un peu, mais on l'abordera quasiment pas, c'est dans le problème de la réception de ces images. Si l'on se place, comme je viens de le faire froidement, dans le contexte de l'époque, on a deux résultats différents et deux approches différentes et deux, comment dirais-je, appréciations différentes. En revanche, aujourd'hui, avec le recul et avec ces photos ont été faites en 1890 pour celle d'Adjet et pour celle de Robert de Machy, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2007, nous n'avons pas du tout la même réception de ces images-là. Aussi bien le courant pictorialiste est encore aujourd'hui malheureusement dénigré par les historiens, alors que Adjet, qui n'est pas un artiste, qui ne s'est jamais considéré comme un artiste, est aujourd'hui présenté, édité et exposé comme un artiste. Tout simplement parce que le travail d'Adjet a été récupéré, et je dis bien à l'envi récupéré par les surréalistes notamment, qui en ont fait l'un des chantres de l'enregistrement photographique involontaire, et donc toute la théorie du surréalisme sur la réalisation de l'inconscient est passée au travers de l'épreuve des photographies d'Adjet. Donc Adjet est considéré aujourd'hui comme un artiste, ce qui est une erreur d'appréciation à mon sens. Et Robert de Machy, son courant photographique, le pictorialisme, est complètement dénigré. Donc on va s'attacher aujourd'hui à regarder les photographies dans leur contexte de l'époque et non pas dans leur phase de réception actuelle, car cela serait bien trop compliqué à chaque fois de séparer les phases de réalisation et de contextualisation et les phases de réception. Mais c'est bien pour vous montrer que la photographie, dans son aspect historique et dans son aspect de réception, pose encore aujourd'hui de nombreux problèmes. Alors, nous allons remonter aux origines de la photographie, mais je ne vais pas vous assommer avec des cours de technique pure, car moi-même, j'avoue que je m'y mélange un peu les pinceaux, tellement c'est compliqué. Alors, nous allons très brièvement passer sur les tout débuts de la photographie. Comme vous le savez, la photographie est née officiellement en 1839. En fait, cette date de 1839 est une date anniversaire qui a été décidée en 1939, donc voyez-vous, un siècle plus tard. La photographie n'est pas officiellement née en 1839. La photographie, comme toute invention, est le produit et le résultat de plusieurs inventions antécédentes qui, par le truchement d'un inventeur un peu plus génial que les autres, a réussi, en les additionnant, à produire une autre invention. Donc la photographie est le fruit de l'invention aussi bien de la caméra obscura qui existe depuis le XVIIIe siècle que de la découverte de la sensibilité d'un certain nombre de produits chimiques à la réaction du soleil, enfin de la lumière. Et donc additionné, Nicéphor Niépce, dès 1826, obtient cette image qui est le point de vue du gras, ce qu'on appelle le point de vue du gras, en fait, qui est une vue de sa chambre à Chalon-sur-Saône. Alors, je vous rassure, la photographie que vous voyez ici est une reproduction bien médiocre, mais qui est bien supérieure à l'original. L'original de la photographie a été retrouvé et est aujourd'hui conservé à Austin, au Texas, aux États-Unis, mais on n'y voit strictement rien dessus et elle ne peut pas être exposée. Donc ça, c'est une espèce d'extrapolation de l'image aujourd'hui, mais ça ressemble plus à une impression qu'à une véritable photographie. Alors, entre 1826 et 1839, vous vous en doutez bien, la recherche évolue. Daguerre, qui est un petit malin, s'associe avec Niépce assez rapidement, pressentant tous les aspects commerciaux qu'il pouvait tirer de l'affaire. Niépce meurt bien avant 1839, mais c'est Daguerre qui rafle la mise et qui arrive à mettre au point le daguerréotype. Alors, le daguerréotype, contrairement à la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui, est un positif direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négatif. Lorsque l'on met une plaque d'argent, qui était en général des plaques métalliques, soit en étain, soit en argent, et qui était recouverte de surfaces sensibles, elle est directement mise derrière le dos de la chambre, et lorsqu'on fait la photographie, on obtient une image positive après une révélation chimique. Donc il n'y a pas de négatif, et ce sont des épreuves systématiquement uniques. Daguerre fait racheter le brevet du daguerréotype par l'État en 1839, et c'est la raison pour laquelle on considère que 1839 est la date anniversaire et la date de naissance de la photographie. Et l'État rachète donc le brevet à Daguerre et l'offre au monde de manière gratuite, c'est-à-dire que on publie de manière officielle la façon dont on peut faire du daguerréotype et tout le monde peut s'en emparer. Alors, voici la première chambre photographique utilisée par les daguerréotypistes, comme on les appelait, c'est-à-dire les opérateurs qui faisaient du daguerréotype dans le monde, mais particulièrement en France, entre 1839 et 1845-50, qui correspond grosso modo à la date où le daguerréotype est employé. Vous voyez que c'est extrêmement sommaire. Vous avez une boîte en bois, vous avez un objectif, et derrière, mais on ne le voit pas, c'est là où l'on glissait la plaque. Alors, la photographie se faisait, comme on dit, au bouchon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obturateur, il n'y avait strictement rien, vous enleviez le bouchon devant, et vous posiez de manière totalement intuitive. Si c'était par grand soleil à l'extérieur, vous posiez 30 secondes, une minute. Si c'était en intérieur sombre, il fallait poser en général plus de 10 minutes. Donc on voit là que le dispositif technique empêche, limite fortement les possibilités d'obtention d'images. Alors, là aussi, on n'y voit pas grand-chose, mais c'est les seules reproductions que j'ai pu trouver. C'est une photographie de boulevard à Paris exécutée par Daguerre en 1837, c'est-à-dire antérieurement à l'annonce de la naissance de la photographie. Donc on voit bien que le sujet est très bouché, que c'est quelque chose d'extrêmement statique, mais il lui a fallu poser quelques minutes pour obtenir cette photographie. Alors, autre exemple, on voit que ce sont soit des architectures, soit des natures mortes. Donc ce sont des sujets toujours un petit peu austères. Et la technique du daguerreotype, contrairement aux idées reçues, va relativement évoluer assez rapidement. C'est-à-dire que aussi bien en 1839, il faut poser quelques minutes pour obtenir une photographie, dès 1841-1842, cela ne nécessite plus que quelques secondes, voire même la seconde. Donc c'est déjà quelque chose d'assez sensible. Mais évidemment, ça n'autorise pas encore la photographie instantanée. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de daguerreotypes qui ne sont évidemment pas ceux que l'on trouve le plus communément dans certaines peut-être de vos familles. Vous trouverez les daguerreotypes, c'est des choses qui sont non pas courantes mais qui se trouvent assez fréquemment. Ce sont les objets qui se conservent plutôt bien. La plupart du temps, ce sont à 99% des portraits, puisque les daguerreotypistes étaient dans la majeure partie des photographes professionnels. Cela nécessitait évidemment d'avoir des connaissances en optique, des connaissances en chimie. Cela nécessitait aussi quelques moyens financiers, car cela coûtait très cher à l'époque de monter un studio de photographie. Et la photographie, en tant que ceux qui allaient se faire photographier, n'était réservée qu'à une certaine classe de la population, qui était en général la bourgeoisie. Alors, il y a un certain nombre de daguerreotypes en extérieur qui représentent aussi bien des bâtiments comme ici la façade du Louvre à Paris. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des portraits que l'on trouve. Alors, vous voyez, le daguerreotype, et non pas, comme ce n'est pas une photographie sur papier, mais c'est une photographie sur plaque de métal, est en général enchâssée dans des cadres préalablement exécutés. Voilà, donc je vous montre quelques exemples de ce qui se fait communément. Évidemment, ce sont des photographies qui sont plutôt assez belles par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les cartons aujourd'hui. Voilà, alors là, vous avez aussi un exemple typique d'une photographie de famille, mais qui est enchâssée dans un cadre un peu plus rococo et un peu plus travaillé que précédemment. Donc ce sont bien des objets photographiques et non pas des tirages photographiques. Alors, dans le lot de photographies, il est évident qu'on voit apparaître comme ça, de manière presque accidentelle, des images qui frappent un peu plus l'esprit aujourd'hui, surtout lorsque l'on sait que la difficulté technique du daguerreotype empêchait l'obtention d'un certain type de photographie. Là, on voit qu'une bouche ouverte qui demande quand même une photographie plutôt instantanée, mais sans être totalement instantanée, on était capable d'obtenir quand même ce type de résultat-là. Alors, il y a aussi quelques exemples de photographies réalisées en extérieur assez tôt, mais on voit là aussi sur le résultat qui vous est projeté que la technique était encore relativement malhabile et qu'on obtient des résultats qu'on peut lire, mais dont la qualité aussi bien de conservation des images, là, elle est très abîmée, que la qualité technique laissait encore à désirer par rapport à ce qu'on pourra voir plus tard. Alors, autre sujet très en vogue, puisque cela ne bougeait pas, par nature, ce sont des portraits post-mortem. Donc là, une petite fille morte photographiée dans son lit. Alors ça peut aujourd'hui paraître incongru, mais c'était à l'époque une pratique assez répandue de se faire photographier, ou en tout cas d'avoir un souvenir de son défunt. Alors, à côté de cela, beaucoup des grandes personnalités du 19e siècle se sont fait photographier, alors certaines plus que d'autres. Ici, nous avons un très beau portrait d'Honoré de Balzac. Ici, un daguerreotype stéréoscopique d'Alexandre Dumas père. Donc le daguerreotype stéréoscopique, c'est un daguerreotype qui se présente sous la forme de deux photographies réalisées exactement au même moment avec un appareil qui possède deux optiques placées côte à côte et qui enregistre donc de manière simultanée deux images avec un léger décalage droite-gauche et qui, placé dans un appareil prévu à cet effet, permettait de recréer artificiellement par un effet d'optique la profondeur, donc la troisième dimension. Et si l'on place cette plaque stéréoscopique de Alexandre Dumas devant un appareil prévu à cet effet, on a l'impression d'avoir un portrait en trois dimensions d'Alexandre Dumas. C'est assez saisissant, malheureusement, évidemment, projeté, ça ne donne rien puisque nous ne pouvons pas recréer la troisième dimension par ce biais. Alors, autre exemple de personnalité qui s'est fait abondamment photographier, là en l'occurrence, un profil de Victor Hugo. Alors, ce qui est évidemment aussi intéressant chez Victor Hugo, je n'ai pas d'autres exemples que j'ai photographiés, mais Victor Hugo était lui-même photographe lorsqu'il était en exil à Jersey entre 54, à partir de 54. Hugo fera beaucoup de photographies, notamment avec ses enfants. Il a laissé derrière lui une production photographique assez intéressante, assez peu en daguerreotype, mais beaucoup en photographie sur papier. Autre exemple de personnalité connue, ici Edgar Allan Poe. Alors vous voyez que ce sont le daguerreotype, en fait, s'il présente quelques inconvénients, notamment de par sa difficulté à opérer, le fait que ce soit une image unique et donc qu'elle ne puisse pas être reproductible. Le grand avantage, en revanche, du daguerreotype, c'est qu'il est extrêmement précis dans son rendu. C'est une image très très nette. Alors évidemment, moins au début, mais plus on avance dans le développement de la technique photographique, plus la qualité de rendu de l'image s'améliore. Alors, autre sujet abordé en daguerréotype, des nus. Celui-ci est assez beau et assez rare dans sa réalisation parce qu'on sent qu'il a été saisi presque sur le vif, même si la personne pose. Ou là, des nus avec des effets de miroir, ce qui était assez fréquent à l'époque. Autre exemple, donc là aussi de daguerréotype stéréoscopique. Alors, la technique du daguerréotype évolue et entre les tout débuts en 1839 et la fin, on va voir tout à l'heure qu'on va passer à une autre technique de photographie, le négatif positif, mais jusque dans les années 1850 en France, le daguerréotype est encore largement employé et quasiment exclusivement employé comme tel. Et on voit que la sensibilité des plaques augmente de plus en plus. Alors, on n'arrive pas encore à la photographie instantanée, mais on arrive déjà à saisir un bateau qui rentre d'un port où on voit la fumée qui s'échappe. Et cette image n'aurait été pas du tout possible à réaliser dans les années 1840, mais en 1850, c'est-à-dire 10 ans à peine après l'invention, on est capable d'obtenir ce type d'image. Alors voici un autre exemple de photographie instantanée, entre guillemets, une photographie d'un pont à Paris avec une foule de passants et notamment de fiacres qui passent. Alors la plupart, évidemment, laissent des traces fantomatiques derrière eux puisque le temps de pose ne permet pas encore de saisir dans l'instant les objets, mais on voit qu'il y a comme ça des tentatives d'obtention d'instantané. Alors d'autres photographies au daguerréotype qui peuvent paraître comme ça en les regardant assez jolies et tout à fait communes, mais qui sont en fait de véritables tours de force techniques. Lorsqu'on sait que hisser du matériel de daguerréotype à haute altitude pour faire des photographies de montagne, ça relève vraiment de l'exploit. Alors, autre exemple, et ça qui sont malheureusement très rares, ce sont les rares daguerréotypistes qui sont partis donc en voyage et qui revenaient de leur voyage avec quelques exemples photographiques de leurs expéditions. Alors, ils sont rares pour la simple et bonne raison que voyager à l'époque c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui et que le matériel photographique à transporter était assez complexe et que la sensibilité des plaques dans les pays notamment chauds comme ici en Grèce ne réagissait pas du tout de la même manière que sous des climats plus tempérés comme les nôtres. Alors voilà, je vous montre quelques exemples de daguerréotypes qui ont été réalisés à cette occasion. Alors autre curiosité, entre guillemets, photographique, c'était qu'on a pensé dès le début que la photographie allait révolutionner l'enregistrement du réel, puisque d'un coup, on basculait d'un enregistrement, enfin, si vous voulez, d'une captation du réel qui était opérée soit par le dessin, soit par la peinture, et que la photographie, qui était un enregistrement mécanique, et donc dénué de toute intervention manuelle, les scientifiques notamment ont tout de suite vu l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de la photographie en l'associant à leurs observations. Alors le problème, c'est qu'évidemment, c'était extrêmement compliqué à mettre en place. Certains d'entre eux ont essayé de coupler l'appareil photographique avec aussi bien des télescopes pour photographier des images d'astronomie. Il ne subsiste malheureusement qu'un exemple connu au monde de la Lune en daguerréotype et qui est conservé aux États-Unis et qui est une photographie américaine et pas française. Mais là, nous avons un exemple de micro-photographie, c'est-à-dire d'association d'un appareil photographique avec un microscope. Alors ça donne des images assez étonnantes, un monde qui était jusqu'à présent invisible à l'œil nu et qui devient visible par la photographie, et notamment qui puisse être enregistré de manière permanente et définitive. Alors, ce qui a été en revanche plus couramment employé, même si ça reste quand même l'exception, ce sont des photographies dites d'anthropologie, c'est-à-dire que au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, on faisait venir des quatre coins du monde des habitants de contrées lointaines, on les exposait comme dans les foires et on les photographiait. Alors là, nous avons un exemple de face profil d'un indien Bodokoudous qui a été photographié à Paris en 1844. Donc voilà les champs d'application scientifique de la photographie qui restent encore relativement mineurs. Alors, la grande révolution qui va apparaître en France à l'orée des années 1850, c'est le passage donc du daguerréotype, qui est une épreuve unique, au principe du positif-négatif. Alors, le positif-négatif des années 1850 ne ressemble pas beaucoup à celui d'aujourd'hui, même si dans son principe, il fonctionne exactement de la même façon. Donc, vous avez en haut un négatif qui est un négatif sur papier, et en bas, vous avez son équivalent en positif. Alors, cette technique va entraîner une révolution dans la mesure où désormais l'image multiple devient possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diffuser l'image photographique et non plus en avoir qu'un simple exemplaire. Et par ailleurs, la souplesse d'emploi des appareils photographiques va considérablement s'améliorer. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de grandes chambres photographiques, on va désormais n'avoir besoin plus que de petites chambres photographiques. Par ailleurs, la sensibilité des négatifs sur papier est beaucoup plus grande que les daguerréotypes. Donc l'un des premiers en France à faire de la photographie sur papier, c'est Hippolyte Bayard, qui est ici représenté, qui s'est fait autoportrait en noyer. Alors vous allez voir quand même que les toutes premières photographies sur papier, comme celle-ci, qui est une photographie des moulins à Montmartre, sont aussi difficiles à obtenir que les premiers daguerréotypes. À la différence qu'en l'espace à peine de 6 mois à 1 an, on va être capable de passer de ce type de résultat-là à ce type de résultat qui est beaucoup plus net, en tout cas beaucoup plus net et beaucoup plus fin dans sa réalisation. Alors, concurremment à l'apparition du négatif papier, on a vu tout à l'heure que pour le daguerréotype, la plupart des photographes étaient des photographes professionnels. Cette fois-ci, la plus grande souplesse d'emploi du papier, donc du négatif, va permettre de voir naître une nouvelle catégorie d'opérateurs qu'on va appeler les photographes amateurs. Alors ce ne sont pas des photographes amateurs comme vous et moi, ce sont des photographes qui sont en général des grands bourgeois ou des grands aristocrates qui ont une sensibilité artistique déjà affirmée et qui vont se regrouper en 1851 sous l'appellation d'une association qui s'appelle la Société Française de Photographie. Et ces gens-là vont vouloir développer la photographie en tant que pratique autonome et surtout vouloir faire reconnaître la photographie comme étant un art à part entière. Alors, on va voir que les sujets vont un petit peu évoluer, même si on ne peut toujours pas faire de photographie instantanée, c'est vrai qu'on va pouvoir obtenir des cadrages et des images un petit peu plus intéressantes. Alors, à la différence du daguerréotype, comme on l'a vu, qui présentait beaucoup d'inconvénients, mais qui avait l'avantage d'être extrêmement net dans son rendu, le négatif papier, lui, présente un inconvénient, mais qui va être tourné à l'avantage des amateurs, c'est-à-dire qu'il présente un beaucoup plus gros grain et un espèce de rendu un petit peu laiteux, comme ça, un petit peu flou, mais qui est dû à la nature de la texture du papier. Et ces photographes amateurs regroupés sous la Société Française de Photographie vont tirer parti de ce qui pourrait paraître comme un inconvénient pour justement affirmer la photographie comme un art et toujours être dans un comparatif, car le comparatif ne sera sans cesse mis par rapport à la peinture. Alors je vous donne quelques exemples de photographies qui ont été faites dans les cercles amateurs à l'époque. Toujours Victor Regnault, qui était un chimiste en fait de formation. Alors d'autres photographies, ici une image de Eugène Durieux, c'est un nu masculin qui a servi comme modèle à Eugène Delacroix. Voici également aussi le type de photographie qu'on réalisait, qui étaient les études d'après nature, qui étaient très fréquemment réalisées à l'époque et qui servaient soit comme modèle pour les peintres dans leurs ateliers, soit comme justement comme modèle équivalent à celui qu'on trouvait en peinture, notamment on pense aux peintures de Rosa Bonheur au milieu du 19e siècle, qui a réalisé beaucoup de modèles d'après nature. Alors voici d'autres exemples. C'est un autoportrait d'Henri Lossec qui se représente en artiste, en peintre. Alors ça, c'est un négatif. Malheureusement, le positif a été perdu, mais c'est bien pour vous montrer comment étaient obtenus les négatifs et à quoi cela ressemblait. Donc on voit bien toute la texture à l'intérieur du papier. Voilà, alors là, c'est une autre photographie d'Henri Lossec qui est faite dans les bains à Paris. Alors là, je vais vous montrer une petite série d'un seul et même photographe qui s'appelle Charles Nègre, qui était un photographe important et qui a ardemment milité pour la défense de la photographie artistique. Donc on voit aussi que ce qui n'était quasiment pas possible à faire en daguerréotype, cette image qui peut paraître posée mais qui est en fait un quasi instantané, n'aurait jamais pu être faite entre les années 1840 et 1850. Donc on voit là qu'il y a aussi un saut technologique qui entraîne une mutation de l'obtention des images. Voici un exemple d'instantané saisi sur le vif. Il n'est pas encore parfait, mais on voit déjà qu'il permet, encore une fois, d'ouvrir le champ des possibles iconographiques. Voici un portrait fait en extérieur, toujours par Charles Nègre. Un autre sujet très classique, ce sont les photographies faites dans le cercle familial et intime. Ou cette autre photographie très célèbre d'Henri Lossec qui s'est représenté lui-même au sommet de la cathédrale Notre-Dame. Voici encore un dernier exemple de Charles Nègre qui sont les bords de Seine à Paris. J'allais dire que c'était le dernier, mais c'était l'avant-dernier, voici le dernier. Donc qui est la façade, ou en tout cas un détail architectural de la façade de l'abbaye de Montmajour à Arles. Un paysage près de Nice. Voilà, alors ça c'est la dernière photographie de Charles Nègre, car je vous ai parlé du négatif papier, mais dès 1855, un autre négatif va faire son apparition, qui est le négatif sur verre. Alors, le négatif sur verre, contrairement au négatif sur papier, présente évidemment l'inconvénient de la fragilité, mais le grand avantage, et qui va là, cette fois-ci, commencer à véritablement révolutionner la photographie, c'est qu'il est d'une extrême sensibilité. Et il est d'une extrême précision dans le rendu. Avec la naissance avec l'apparition du négatif sur verre, c'est l'explosion de la photographie commerciale. Je vous présente ici une planche du photographe commercial qui s'appelle Eugène Disdéry et qui a breveté en 1854 la photographie carte de visite, qui est un petit peu l'ancêtre du photomaton. Vous allez chez le photographe, vous faisiez prendre le portrait sous divers angles et après vous choisissiez la photo que vous avez sélectionnée, il vous tirait sur papier en plusieurs exemplaires la photographie. Alors, avec la photographie négative sur verre, l'application commerciale de la photographie va connaître une véritable expansion et vont voir fleurir sur les grands boulevards à Paris un nombre impressionnant de studios de photographie qui ne vont quasiment faire que du portrait. Alors, je vais vous montrer une série de portraits qui sont donc de Nadar. J'aurais pu prendre un autre photographe, mais il est considéré comme l'un des grands portraitistes du 19e siècle et à juste raison. Alors ici, un portrait assez saisissant de Baudelaire. Ici, Honoré Daumier. Hector Berlioz. Eugène Delacroix. Donc la plupart des contemporains vont passer sous l'objectif. Certains d'entre eux, comme Flaubert, on ne connaît qu'une ou deux photographies. Delacroix, par exemple, s'est fait abondamment photographier. D'autres ne se feront quasiment jamais photographier. Baudelaire, qui a toujours critiqué la photographie, a quand même cédé à la tentation de se faire photographier. On ne connaît malheureusement aujourd'hui que 6 ou 7 portraits de lui, mais ce qui est déjà assez conséquent. Georges Sand. c'était une façon pour eux aussi de diffuser leur image de manière promotionnelle. Il y avait en effet un aspect très classique et très en vogue au XIXe siècle de se faire, avant la naissance de la photographie, d'aller chez le peintre pour se faire tirer le portrait. Mais c'est sûr que la photographie a démocratisé cette manière de faire et c'était surtout diffusable à plus grande échelle. Et enfin, Sarah Bernhardt. Donc vous voyez qu'entre le daguerréotype et ça, il y a déjà une extrêmement grande différence, et pourtant il n'y a que 15 ans entre la naissance de la photographie et cette image qui date de 1855. Donc on voit bien que la technique a évolué, que les opérateurs eux-mêmes se sont aguerris à la technique photographique, et que les sujets en revanche n'ont toujours pas beaucoup évolué dans ce qu'il est photographié, c'est-à-dire c'est beaucoup de paysages, beaucoup d'architecture et beaucoup de portraits. Alors là, un autre exemple un petit peu moins connu, toujours de Nadar, c'est les maquettes d'hélicoptères de Ponton d'Amécourt, dont Nadar a fait tout un jeu de photographie, mais qui sont des images assez étonnantes. Alors je vous ai montré une, puisque l'intérêt de Nadar, c'est qu'il abordait aussi bien ce type de sujet et les portraits de la même manière. Alors, donc là, je vais vous présenter deux ou trois photographies d'un autre grand photographe qui s'appelle Gustave Legret, et qui a connu un succès immense sous le Second Empire, et notamment par une série de photographies qui est assez connue, qui sont les marines. Et on voit bien là quand même qu'on commence à obtenir des résultats photographiques qui étaient impensables avant, et que le champ va commencer à s'élargir. Alors ici, deux marines qui ont été réalisées par la photographie. Alors ce qui se voit pas sur la photographie, enfin sur la reproduction, c'est qu'en fait, si on revient sur la précédente, vous avez deux grands éléments qui sont donc l'élément de la mer et l'élément des nuages. Alors en fait, Gustave Legret faisait ce qu'on appelle une combinaison négative, c'est-à-dire qu'il photographiait des nuages dans un premier temps, ensuite il photographiait sa scène maritime, et en collant les deux négatifs l'un sur l'autre, il arrivait à obtenir ces images assez saisissantes, qui n'étaient pas possibles à obtenir d'un point de vue technique à l'époque. Donc si ils avaient recours à des artifices techniques pour obtenir ce type d'image-là. Alors, à partir des années 1870, la photographie est désormais assez largement diffusée en France et de nombreux studios, comme je l'ai dit, s'installent. Et c'est surtout la rencontre entre la photographie et l'architecture qui va être assez saisissante, où l'on voit que l'introduction de l'architecture métallique dans l'architecture industrielle au XIXe siècle est quelque chose de tout à fait nouveau. Et la photographie, qui est un art déjà relativement neuf également, va la rencontre des deux nouveautés, aussi bien architecturales que d'enregistrement, vont se lier d'amitié, si je puis parler ainsi, et il y aura beaucoup de photographies d'architecture à l'époque. Alors là, je vous montre quelques exemples d'un photographe qui s'appelle Édouard Baldus et qui s'est évertué à enregistrer les évolutions architecturales de son temps. Alors là, c'est toujours le Louvre, mais qui est photographié après la restauration de Le Fuel, qui a complètement restauré de fond en comble le Louvre. Alors, d'autres types d'images qui sont là aussi des petits tours de force technique, cette photographie alpestre ou alpine, faite en 1870 par un opérateur qui s'appelle Adolphe Braun. Alors, pour revenir à ce qu'on avait vu en daguerréotype sur l'application de la photographie aux sciences, je vous montre maintenant, à 20 ans d'écart, ce qu'on est capable d'obtenir. Alors là, c'est autant sur le daguerréotype qu'on avait vu tout à l'heure de photographie microscopique, c'était des rapports, si vous voulez, de grandissement qui étaient assez faibles. Autant là, on est dans des rapports de grandissement. Là, c'est l'épiderme d'une chenille qui est photographiée en 1870. Là, vous avez des alevins de truites qui sont photographiés sous l'eau. Ici, vous avez une photographie de la surface lunaire qui est réalisée en 1875. Et vous voyez déjà qu'on obtient des résultats assez prodigieux. Ici, un exemple de géologie expérimentale avec une photographie de cassure. Alors là, je vous montre un petit exemple anachronique, anecdotique, c'est la photographie spirite. C'est bien pour vous montrer la croyance qu'on avait dans l'objet photographique à l'époque. Donc certains photographes ont ouvert des studios de photographie spirite où vous alliez vous faire photographier et vous pensiez fortement à votre défunt mari ou à votre défunte épouse, et quelques instants plus tard, des passes magnétiques étaient faites par le photographe autour de votre visage, et il revenait un quart d'heure après avec vous et l'effigie translucide du défunt disparu, et la plupart des gens y croyaient. Alors ça a donné lieu à d'innombrables débats, beaucoup d'actions en justice intentées par un certain nombre de clients et surtout par les détracteurs de ce type de photographie-là. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait il existe des centaines de milliers d'images de ce type-là et il n'est pas rare d'en rencontrer, mais ça prouve bien à quel point on avait foi en la photographie et en sa capacité à enregistrer aussi bien le réel que ce qui était invisible à l'œil nu. Alors autre exemple un petit peu rigolo, cette photographie de lévitation. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un trucage, mais c'était très bien fait et beaucoup de gens tombaient dans le panneau. Alors là, nous avons vu donc la photographie telle qu'elle s'est couramment pratiquée. J'aurais pu montrer des centaines de milliers d'autres exemples, tant la photographie est riche en exemples. Mais nous allons faire un petit saut dans le temps qui est la plus grande révolution photographique et qui cette fois-ci va définitivement bouleverser le champ photographique. C'est l'apparition en 1885 d'un nouveau type de négatif. Alors, je suis désolé d'insister là-dessus, mais la technique est évidemment très liée à l'obtention des images et donc au répertoire iconographique. C'est cette fois-ci la véritable photographie instantanée qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en 1885, un nouveau négatif apparaît qui est le négatif souple et qui est un négatif au gélatino-bromure d'argent et qui permet cette fois-ci, comme on peut le voir ici, d'obtenir des photographies avec un temps extrêmement court. Alors, pour preuve, ces photographies qui sont de l'ordre de la centième ou du millième de seconde, qui sont déjà obtenables en 1890. Alors, parallèlement à l'hypersensibilité des plaques qui apparaissent, il y a une hypersimplification des appareils photographiques. Autrefois, il fallait une chambre, il fallait être quasiment un chimiste, un opticien. Aujourd'hui, en 1885-90, il ne suffit plus d'être opticien et chimiste pour faire de la photographie. Il suffit d'aller chez son revendeur photographique, d'acheter un petit appareil, de mettre une petite bobine à l'arrière, de faire des photos, de la rapporter chez le magasin qui développait instantanément les photographies. Donc on voit bien là que, soudain, la photographie va être plus commode à utiliser. Alors je vous montre aussi quelques exemples de photographies scientifiques pour vous montrer jusqu'à quel point on est capable de saisir ce qui était littéralement invisible à l'œil nu. Ici vous avez de l'électricité qui est photographiée, un pôle positif qu'on pouvait obtenir assez aisément avec une machine de Ruhmkopf, mais qu'on n'arrivait pas à photographier. Alors avec ce type de plaque-là, nous pourrons obtenir ce type d'image-là. Autre exemple assez saisissant, la comète. Ici, c'est la comète Morehouse qui est passée en France en 1890 et qu'on a pu photographier de la sorte. Alors, autre exemple qui a révolutionné aussi, notamment pour les peintres et les physiologistes, Étienne Jules Marais, qui est un photographe français, mais surtout qui est un physiologiste, qui a passé toute sa vie à essayer de travailler sur la décomposition du mouvement et qui anticipe en cela, on le considère d'ailleurs plutôt comme le père du cinéma. Et ces images-là, qui datent de 1890, ont été réalisées à intervalles très très courts sur une seule et même plaque. Mais ça permettait effectivement de décomposer le mouvement, ici un sauteur à la perche, ou ici une personne sautant en longueur. Donc vous voyez qu'on n'obtient pas du tout ce type d'image. Alors ce qui est intéressant en plus à savoir, c'est que c'est ces images dont on aurait pu penser qu'elles resteraient dans le cadre très strict et très réservé de la science n'auraient été vues par personne. En fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est les images qui ont été abondamment diffusées dans des magazines de vulgarisation scientifique à l'époque, et notamment un magazine qui s'appelle La Nature, et qui était quelque chose de très répandu. Et donc la plupart des gens avaient accès à ce type d'image-là, et ça frappait l'imagination de voir qu'on était capable d'obtenir de ce type de résultats-là. Mais surtout, ça leur a donné beaucoup d'idées pour devenir eux-mêmes photographes, donc comme vous et moi, tout à chacun, et d'obtenir des résultats photographiques. Alors la seconde grande invention, qui est un peu plus tardive, mais qui va aussi révolutionner l'imaginaire chez les gens, c'est l'invention de la rayographie en 1895 par Wilhelm Conrad Röntgen. Et c'est la première fois que l'on peut voir à l'intérieur des corps sans les disséquer grâce à la radiographie. Alors, je vous montre quelques exemples. Là, c'est la première radiographie en France, qui date de janvier 1895, qui est la main d'un fœtus d'un enfant. Alors, pourquoi le fœtus d'un enfant? Tout simplement parce que les tout débuts de la radiographie étaient encore un petit peu balbutiants et qu'il était plus facile d'avoir des résultats avec des épaisseurs très fines qu'avec des épaisseurs de chair à photographier. Alors là, autre exemple, corps humain d'une personne décédée qui a été photographiée dans sa totalité. Là, une petite curiosité aussi, qui sont deux écrevisses photographiées dans une charmante composition, mais qui avaient plutôt vocation à diffuser l'excellence des tubes focus cylindriques de Monsieur Chabot. Voilà. Alors, ces deux révolutions, aussi bien radiographie que photographie instantanée et que diffusion de l'image de manière plus intense que ça ne l'était jusqu'à présent, ça va conditionner un certain nombre de personnes et ça va libérer surtout la pratique photographique en France où désormais un nombre important d'amateurs va se mettre à faire de la photographie. Alors là, le plus célèbre et sans doute le plus connu est Jacques-Henri Lartigue qui dès 1890 se met à faire de la photographie et on connaît tous ces séries un petit peu étonnantes de la façon dont il a saisi dans la volée à l'instant son intimité familiale. Alors là, c'est son petit chat. Ici, c'est son frère et son oncle qui étaient férus de course automobile. Et vous voyez bien cette espèce de vision soudain moderne de la photographie qui est en stricte opposition avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, autre exemple, toujours par Lartigue. Voilà, toujours Lartigue. Cette balle saisie au bon. Alors, à la suite de Lartigue et contemporain de Lartigue, en fait, j'aurais pu prendre 500 photographes amateurs tellement il en existe à l'époque, mais évidemment, certains sont plus célèbres que d'autres. On sait que Zola fut un des grands amateurs photographes de la fin du 19e siècle et qu'il a laissé derrière lui une production photographique assez considérable. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la plupart de ces auteurs travaillèrent dans le cadre strict de leur intimité familiale. Et donc, il y a assez peu de photographies hors portraits, soit familiaux, soit de propriétés dans lesquelles ils habitaient. Donc voici sa fille Denise qu'il a beaucoup photographiée. Alors ça, c'est également une photographie de Zola, mais je tenais particulièrement à vous la montrer, pour vous montrer que l'amateur n'a pas du tout le même souci que le professionnel. Là où le professionnel, le photographe professionnel, on lui demande une certaine rigueur dans le cadrage, dans la prise de vue et dans le rendu de l'image, l'amateur est totalement libéré de ces contraintes-là et il opère avec une liberté formelle et visuelle qui est tout à fait neuve. Alors on voit cette image de la Tour Eiffel illuminée en 1900 qui est prise depuis un pont où Zola ne se préoccupe guère de savoir si cette image est bien cadrée ou pas cadrée, et c'est simplement l'inventivité visuelle qui l'intéresse et qui le porte à ce type de photographie-là. Et on va voir que beaucoup de la photographie d'amateur est faite dans ce sens-là et dans cet esprit-là. Et ça va évidemment beaucoup influencer les avant-gardes artistiques dans les années 20 et 30, qui auront vent de cette photographie-là, car là aussi elle sera relativement bien diffusée, et qui se réapproprieront cette espèce de facilité et de cette, comment dirais-je, de ce non-souci de la beauté photographique. Alors toujours Zola, des portraits de sa fille et de ses enfants. Alors, autre artiste qui a pratiqué la photographie, Edgar Degas. Alors, Edgar Degas a pratiqué la photographie dans un registre totalement opposé. Contrairement à l'artiste suivant que l'on va voir, Degas n'a quasiment pas fait de photographie qui lui ont servi pour ses peintures. Il a fait des photographies dans un seul souci de plaisir et il a fait des photographies pendant l'espace d'une année à peine, uniquement chez lui, dans son appartement, au gré des gens qui venaient lui rendre visite, et surtout il s'est lui-même beaucoup mis en scène. Alors là on voit assis Auguste Renoir, le peintre, et debout Stéphane Mallarmé, qui étaient les intimes de Degas et qui ont été photographiés par lui. C'est paradoxalement d'ailleurs les rares photographies de Mallarmé que l'on connaisse. Alors, dans le corpus photographique assez maigre de Degas, il existe cependant 4-5 photographies qui n'ont rien à voir avec des photographies de l'intimité familiale, mais qui sont des photographies d'études de nu, dont certaines sont à rapprocher de ses peintures, mais il reste encore aujourd'hui difficile d'avoir la certitude qu'elles ont été faites comme modèle pour ces peintures-là, parce que, par exemple, pour cette photographie-là, nous n'avons pas retrouvé ni en pastel, ni en dessin, ni en peinture, un quelconque rapport iconographique avec ce qu'il aurait pu peindre. Il existe en revanche d'autres modèles nus qui sont probablement issus de cette série et qui, eux, se retrouvent dans, comme détail dans ces peintures. Donc tout laisse à penser quand même que ça a été réalisé dans ce souci-là. Alors, autre exemple, c'est Maurice Denis, dont le musée d'Orsay actuellement célèbre une rétrospective, aussi bien en peinture qu'en photographie. Maurice Denis a fait un nombre incalculable de photographies. C'est sans doute l'œuvre amateur la plus riche, en tout cas la plus grande œuvre amateur de peintre qui nous soit léguée aujourd'hui. Et vous allez voir que lui, il est totalement hors de la contrainte du geste beau. C'est-à-dire que tous ses négatifs sont rayés, ils sont en général mal tirés. C'est quelqu'un qui faisait ça vraiment pour son strict et simple plaisir. On voit ici exactement le produit d'une photographie qu'on pourrait considérer comme ratée aujourd'hui, tant elle est abîmée, mais dans l'esprit de Denis, ça n'avait aucune importance. Alors toujours Maurice Denis, en tout cas la fille de Maurice Denis, dans l'atelier de Maurice Denis. Voilà, alors on a vu que la photographie se répand surtout chez les amateurs. Là je vais vous montrer quelques exemples un petit peu ludiques où un même personnage se représente trois fois dans la même scène où c'était joueur de cartes. Et donc ça c'était ce genre de récréation photographique qui était couramment pratiqué à l'époque aussi parce que pour attirer vers la photographie un nouveau type de praticien, il était recommandé la plupart des manuels photographiques consacraient un chapitre assez important à ce qu'on appelait les récréations photographiques, c'est-à-dire à l'aspect ludique de la photographie, à se mettre en scène soi-même, tel de la sorte en faisant des photomontages, ou comme ici dans cette espèce de métonymie photographique où le photographe se photographie lui-même, dans ce plutôt truculent trucage. Ou ce type de photographie d'amateur faite au flash la nuit où l'on voit traîner le fil de l'obturateur à distance, ce qui chez les amateurs ça ne les dérange pas du tout d'avoir dans le champ de la photographie ce type d'élément. Ou cet autoportrait de groupe réalisé dans la boule d'un jardin. Alors ces choses-là encore une fois peuvent paraître assez communes et courantes aujourd'hui, mais il ne faut vraiment pas perdre d'idée qu'en replaçant dans le contexte de l'époque ces images-là, pour certaines, elles sont saisissantes, elles sont novatrices, elles n'ont rien à voir avec les représentations qui sont communément admises à l'époque. Alors, autre nouveauté, c'est la liberté de cadrage dont j'ai parlé tout à l'heure avec Zola et sur la photographie de la Tour Eiffel. Ici, vous avez un photographe anonyme qui date de 1890 et qui est toujours sur la Tour Eiffel, qui est une contre-plongée photographique où là l'image est tellement tordue qu'elle devient elle confine à l'abstraction et c'est ce type d'image là qui va vraiment influencer les avant-gardes artistiques. Alors autre exemple de photographie à l'envers entre guillemets. Ceci aussi un dernier exemple de photographie amateur. Alors de ce type d'image là, il en existe des centaines de milliers pour ne pas dire des millions. Donc il serait évidemment très fastidieux ici de vous les présenter toutes, c'était simplement l'occasion de présenter comme ça un petit aspect de la photographie. Mais encore une fois, je pense que vous saisissez bien, quand en l'espace de 40 ans à peine, ou un peu plus, 45 ans, on est passé d'une photographie au bouchon, comme on la faisait pour le daguerreotype, à une photographie totalement instantanée, totalement répandue dans la société, et qui va permettre d'être beaucoup plus libre dans son approche. Alors, à l'époque, puisque nous avons vu que la photographie avait débuté par une photographie un petit peu lourde d'emploi, puis qu'avec l'apparition du négatif papier, il y avait eu quelques velléités artistiques, mais qui avaient été bien vite étouffées par la récupération industrielle de la photographie, au moment de l'explosion de la photographie amateur, un nouveau courant photographique dont j'ai parlé tout au début, qui s'appelle le pictorialisme, va chercher contre vent et marée à imposer la photographie comme une véritable pratique artistique autonome en réaction contre cette espèce de démocratisation à l'envi de la photographie. Alors ils sont finalement assez peu à s'y être intéressés, mais je tenais à vous montrer ces quelques exemples en guise de conclusion, tout simplement pour vous montrer que ce sera la véritable fin d'une pratique photographique artistique, en tout cas comme photographie, et puis parce que c'est un courant qui est malheureusement encore aujourd'hui totalement mésestimé, même si à titre personnel je ne suis pas fanatique des images, je pense cependant que c'est un courant qui mérite d'être plus étudié simplement dans sa remise en perspective par rapport aux autres pratiques de l'époque. Alors là, je vais vous passer un certain nombre de photographies qui ont été réalisées par trois photographes pictorialistes importants, l'un qui s'appelle Robert de Machy, l'autre Constant Puyot, et enfin Pierre Dubreuil, qui sont les trois grands tenants de ce courant artistique français. Alors, c'est intéressant aussi de noter que le pictorialisme n'est pas un courant uniquement français, mais qui est un courant international, c'est-à-dire que les quatre grands foyers de pratique, c'était Vienne en Autriche, Londres en Grande-Bretagne, en France, à Paris et surtout à New York aux États-Unis, et qu'ils vont durer jusqu'à la Première Guerre mondiale et qu'ils vont tous les quatre s'éteindre ensemble pour laisser place à la photographie, au photojournalisme, enfin à une autre pratique de la photographie qui là n'a plus rien à voir avec ce qu'on vient de voir et qui mériterait évidemment une autre conférence. Donc on voit que ces photographes plasticiens, entre guillemets, comme on aurait tendance à vouloir les appeler, tant ce sont des gens qui vont intervenir sur la photographie elle-même, c'est-à-dire sur le tirage, en les retravaillant, pour obtenir des résultats qui sont, encore une fois, plus proches de la peinture que de la photographie. Alors j'ai pris à l'envi des exemples qui frappent, parce qu'il y a, chez les pictorialistes, il n'y a pas que ces images-là, il y a des images qui sont plus aux confins de la photographie classique, mais là, je vous ai essayé de vous sortir quelques exemples d'images, comme celle-ci, où il est évident que, à comparer des photographies amateurs qu'on a vues tout à l'heure, nous sommes radicalement dans une autre option, dans un autre choix photographique. Donc voilà une photographie de Pierre Dubreuil montrant une femme regardant des photographies au salon de photographie des pictorialistes. Donc vous voyez, c'est une belle manière de conclure. Mais c'était simplement... Ce courant-là va s'effondrer, non pas parce qu'à cause de la Première Guerre mondiale, même si on sait aujourd'hui que la Première Guerre mondiale mettra un terme à beaucoup de courants artistiques, parce que la photographie deviendra plus éminemment politique qu'elle ne l'était jusqu'à présent, mais surtout parce que il va y avoir, à partir des années 1915-1916, l'émergence d'un autre, non pas d'un autre courant, mais c'est que la photographie va être ingérée, j'aurais tendance à dire, ou intégrée à l'art en général, et plus uniquement comme étant une pratique autonome parallèle. On va voir notamment les avant-gardes artistiques dont j'ai parlé tout à l'heure, le constructivisme en Russie, le surréalisme en France, Dada, qui est un courant évidemment plus international. Tous ces auteurs, comme je pourrais citer Rodchenko, Man Ray, Laszlo Molinage, etc., beaucoup de photographes, mais qui ne sont justement pas que des photographes, qui sont les artistes, qui sont aussi bien des graphistes, des peintres, des cinéastes pour certains, et des photographes, c'est-à-dire qui vont intégrer la photographie comme une pratique à part entière. Et à partir de ces années 1915-1916, à partir du moment où la photographie va être intégrée et mélangée aux autres arts, et plus uniquement considérée comme une pratique autonome, s'en sera quasiment terminé de ce courant artistique, le pictorialisme, et surtout de cette quête sans fin qui a traversé le 19e siècle, de savoir si la photographie était un art ou un art du document, entre guillemets. En conclusion, on pourra évidemment dire que majoritairement la photographie a été plutôt documentaire, elle a été peu artistique, en tout cas elle a été peu reconnue comme telle, et il y a eu peu de mouvements qui ont cherché à lutter et à défendre la photographie de façon autonome. Mais que l'ingérence, ou en tout cas la façon dont les arts des avant-gardes vont récupérer la photographie, va finalement indirectement permettre une reconnaissance totale à la photographie, mais pas tel que l'auraient voulu les pictorialistes. Voilà, je vous remercie et j'espère que peut-être un jour nous aurons l'occasion de faire la seconde partie qui concerne évidemment les avant-gardes artistiques. Merci.
Merci. Alors, justement, puisque Denis, tu parlais de la seconde partie, on va pas forcément l'aborder tout de suite, mais comme c'est là maintenant la séance des questions, cela étant, ça peut être l'occasion aussi de poursuivre, pourquoi pas, le débat dans ce sens.
Bonjour messieurs. C'est pas vraiment une question, c'est un petit peu une présentation d'un travail qui a été fait sur le plateau, qui concerne trois photographes dans chacun de nos villages et qui ont travaillé sur justement des plaques sous verre. Le premier, qui était originaire de Saint-Agrève, montait donc à Saint-Agrève pour faire des photos des personnes dans le pays. Donc il montait à bicyclette avec tout son harnachement sur le dos et venait faire des photographies, à la fois des portraits dans le café local. Il y a d'autres photographies qui sont très intéressantes et qui permettent la datation. ce sont les photographies des classards. Donc c'était au moment de partir à la guerre, on photographiait le groupe. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis également, vous avez parlé de photojournalisme. Il y a un premier exemple qui est assez étonnant. Il y a un veau à cinq pattes qui est photographié. Donc on a dû appeler le photographe pour montrer ce veau. Alors, mon interrogation, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire que la photographie se diffuse en milieu rural ? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal, si vous voulez, à dater en dehors des classards. Là, c'est évident, c'est la guerre. Mais sinon, c'est assez difficile à dater les costumes dans nos parties de territoire sont beaucoup plus tardifs que ce qui se passe à Paris. Donc, c'est plus difficile à dater. Et là, c'est une interrogation.
Alors, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de la photographie rurale, donc ça va être difficile. Simplement, je pense qu'il faut distinguer des choses lorsqu'on parle de diffusion. Il faut distinguer la diffusion en termes de support, si vous voulez, d'impression, c'est-à-dire de journal hein, ou de magazine, etc., de la diffusion de la photographie en ce sens où dans quels sont les foyers dans lesquels la photographie était pratiquée. Alors, il est évident qu'au XIXe siècle et même jusqu'au début du XXe siècle, la photographie est majoritairement employée en ville. Il n'empêche, comme vous l'avez noté, que beaucoup de photographes itinérants n'hésitaient pas à aller se rendre dans les villages un peu plus reculés pour faire office de photographe ambulant. Maintenant, sur la datation des photographies, on peut se baser sur effectivement plusieurs éléments qui sont aussi bien la technique employée, puisque là, ce serait trop compliqué, mais il y a les techniques qui sont employées jusqu'à une certaine époque et plus après d'autres, sur effectivement les costumes, sur les habitudes, sur les bon, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de comment dire, on trouve pas de studio de photographes. Je pense pas qu'on trouvait de studio de photographes au Chambon-Solignon en 1890. Comme on pouvait en trouver à Lyon, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a eu, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît effectivement plus naturel, puisque c'est pour un simple sujet économique. S'il y a trois clients par an, ce n'est pas viable comme activité. Donc, quant à la documentation de ce que vous avez cité, c'est-à-dire le veau à cinq pattes ou le mouton à trois têtes, ou etc., etc., ça, oui, c'était assez fréquent de voir qu'on cherchait à documenter ce qui pouvait paraître rare. C'était par ailleurs une des fonctions de la photographie. C'était effectivement, on appelait le photographe comme avant on appelait personne, puisque avant il n'y avait personne. Mais c'est vrai qu'on pouvait assez rapidement avoir une trace, si vous voulez, d'un événement, quel qu'il soit. Ça pouvait être, aujourd'hui c'est les mariages, les communions, etc. Mais peut-être qu'il y a 100 ans, c'était plutôt le mouton à cinq pattes. Oui,
c'est à propos de la photographie, art ou document. Peut-on penser, pourquoi ça a été si difficile à admettre, et n'est-ce pas parce que le mot art vient de ars artis, enfin ardent, le feu en fait, et les premiers artistes étaient les forgerons. Donc il fallait avoir un certain savoir-faire, il fallait que les choses sortent des mains de l'artiste. Donc la photo, l'appareil est quand même là pour faire une grande partie du travail, non?
C'est tout à fait ça. Enfin, c'est en résumé, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le débat s'opère sur... D'abord, quand on parle au XIXe siècle de art, on pense à quoi immédiatement? On pense à la peinture. On pense pas à la sculpture. On pense à la peinture. Non, mais je veux dire, dans les débats qui agitent, si vous voulez, là j'en ai pas parlé parce que ça aurait été trop long, mais dans les débats, dans la littérature de l'époque, et les débats qui agitent les tenants d'une photographie artistique, c'est tout à fait ça. C'est de se placer sur le modèle de la peinture. Or, évidemment, pour les critiques de peinture ou pour les peintres eux-mêmes, d'abord les peintres sont furieusement opposés à la photographie parce qu'ils y voient la perte de leur gagne-pain. C'est-à-dire qu'avant, la plupart de leurs revenus, ils tiraient leurs revenus de la peinture de portrait. À partir du moment où la photographie supplante la peinture de portrait, c'en est fini pour eux. Bon, ça c'est la première peur. La seconde chose, en effet, c'est qu'on considère un artiste plutôt quelqu'un qui produit avec sa main. Et que l'enregistrement mécanique de la photographie est pour eux une aberration. En tout cas, ça a Baudelaire disait tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il disait que ça pouvait être une servante des arts et de l'industrie. Des arts en ce sens où elles pouvaient servir à reproduire des œuvres artistiques pour éventuellement les diffuser, mais en aucun cas elles ne pouvaient prétendre à être un art elles-mêmes. Bon, alors Moi, ce que j'ai essayé de montrer, enfin, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'effectivement, on oublie qu'il y a l'opérateur, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une personne qui appuie derrière le bouton, enfin, qui appuie sur le bouton, et que le fait de choisir un sujet, le fait de travailler une image éventuellement, comme l'on souhaitait le faire, les pictorialismes, bon, tout ça. Alors, aujourd'hui, le débat est un peu morné, et en même temps, j'entends encore aujourd'hui, souvent, des gens dire, non, la photographie n'est pas un art, mais bon, ça.
Depuis quand peut-on dire qu'elle est à peu près acceptée comme art? Enfin, vous dites dans les différentes salles d'exposition.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où les avant-gardes artistiques, prenons un exemple, à partir du moment où Man Ray fait de la peinture et qu'en même temps il expose concurremment sa peinture et sa photographie, et qu'on reconnaît que Man Ray est un artiste, on reconnaît de fait que sa production est le fruit de son savoir-faire artistique. Voilà. Donc, on peut globalement dire que, enfin, ça, je parle d'un point de vue, en rétrospectivement, de manière historique, on peut considérer que la photographie est devenue un art autonome et sans qu'il n'y ait plus trop de débat à partir des années 1920. Maintenant, à l'époque même, ça, je vous parle du point de vue de la réception, mais au niveau de la contextualisation de l'époque, il est sûr qu'en 1920, le débat continue de savoir si c'est un art ou pas un art. Mais même encore aujourd'hui, je vous le dis franchement, on entend encore des gens, bon, voilà. Moi, j'ai pas d'avis à avoir là-dessus, de savoir si c'est, je ne me pose pas dans ces termes-là, si vous voulez.
On t'entendra dans le monde entier.
Oh non, mais pourtant, ce n'est pas très important. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la caméra obscura.
Oui.
Qui était utilisée, je crois, par certains peintres.
Oui, c'est ça, oui.
Avant, au 18e, non, je ne sais pas.
Au 18e, même dès la fin du 17e. Mais en fait, avant, ça avait une autre appellation.
Oui, et qu'est-ce que c'est?
La caméra obscura, c'est très simple, c'est en fait une boîte noire dans laquelle il y a un verre dépoli au fond et qui permettait en fait de faire des reports pour les peintres, ça permettait de faire des reports, c'est-à-dire ils regardaient à l'intérieur, ils regardaient un paysage, ils mettaient, c'était quadrillé si vous voulez, le verre dépoli était quadrillé derrière, il y avait une sorte de trou qui reproduisait le paysage si vous voulez sur le verre dépoli, hein. C'est comme un appareil photo en fait, mais dans lequel il n'y aurait pas d'objectif. Et il pouvait décalquer et copier, après il pouvait reporter au carré, c'est-à-dire augmenter ou réduire la taille de ce qu'il voyait, et c'était une manière pour eux de reproduire la nature le plus fidèlement possible par rapport à un élément d'optique et de géométrie. Voilà. Donc c'est ce qui était en fait, c'était utilisé par les peintres. Et c'est ce qui, en fait, ça a servi après à Niepce à se dire, mais évidemment, enfin, c'est-à-dire qu'on voyait l'image apparaître sur le verre dépoli à l'arrière. Et Niepce, à un moment, s'est simplement posé la question, comment faire pour que cette image-là, au lieu de la recopier, entre guillemets, avec le dessin, comment trouver un moyen pour fixer cette image-là? Voilà. Fixer, définitivement cette image-là de manière mécanique sans avoir recours au dessin et à reporter ce qu'on voyait sur le dépoli sur une feuille de papier.
C'était utilisé couramment?
Ah, c'était avant. Utilisé assez couramment, par les peintres de paysage, hein, essentiellement, mais oui, c'était quelque chose, c'était couramment employé. Depuis la Renaissance, le système est connu. Alors, en fait, il n'a pas été appliqué de manière aussi systématique chez les peintres, et puis ça dépend des peintres, ça dépend aussi des pays, des époques, mais oui, c'est un principe assez répandu et assez connu.
Merci.
Je vous en prie. Rachel avait une question.
Si Rachel a une question, on ne peut pas...
Oui, j'aimerais revenir sur le rapprochement ou les oppositions entre la peinture et donc la photographie, parce que c'est vrai que dans ce que tu as montré tout à l'heure, on a vraiment l'impression que c'est un faux débat. Nadar peint des odalisques, donc lui-même est influencé par la peinture. On voit des peintres de l'époque, j'ai vu une exposition il n'y a pas longtemps qui s'intitule Eros à Bâle, où on voit des peintres déjà influencés par la photographie. On sait que, alors je serai un peu moins sévère avec Baudelaire parce que j'ai le souvenir que dans Curiosité esthétique, il rend comme un hommage à la photographie et il dit qu'on est en route pour la modernité et que pour lui, cette fameuse modernité englobe la photographie. Et en fait, on voit à ce moment-là que si on se dispute, en même temps, les uns et les autres s'influencent. Et ça me semble très important. Des naturalistes comme Zola vont transformer leur écriture aussi sous l'influence de la photographie. Donc, ils se disputent, mais en même temps, ils voient très bien les intérêts qu'ils ont dans l'influence artistique, même si certains ont peur de perdre leur gagne-pain. Et puis j'aimerais revenir aussi sur une autre chose, la photo documentaire. De temps en temps, je travaille sur des photographies documentaires, entre autres de journalistes reporters, et je pense particulièrement à une photographie terrible d'une petite fille affamé qui est en train de mourir, qu'un photographe donc prend en gros plan avec un corbeau derrière elle. C'est une photo qui a fait le tour du monde entier, qui a reçu le prix Pulitzer, et on se rend compte en même temps de façon un peu terrifiante que la photographie a été retenue avec des critères artistiques pour avoir donc le premier prix. Alors en même temps le sujet est terrible, en même temps le photographe reporter dit oui, mais c'est un témoignage, et en même temps on s'attache à la forme à un moment donné plus qu'au fond pour donner un prix à cette photo. Donc voilà, c'était deux.
Alors on va essayer de séparer les deux questions. D'abord parce que évidemment, heureusement, elles n'apportent pas la même réponse parce qu'elles ne sont pas de la même époque. Non, mais pour revenir sur les rapports d'influence réciproques entre la photographie et la peinture, il est évident qu'ils sont ténus et très importants et foisonnants et compliqués, etc. Pour preuve, je ne l'ai pas cité, mais la plupart des photographes du 19e siècle, en tout cas des années 1850, c'est-à-dire au début, sont les anciens peintres. C'est-à-dire Charles Nec, par exemple, Gustave Legret, ce sont des anciens peintres qui sont quasiment passés dans l'atelier de Paul Delaroche, qui est un peintre d'histoire du 19e siècle. Alors évidemment on pourra dire c'est des peintres ratés qui ne sont pas arrivés et qui ont saisi toute l'opportunité qu'ils avaient à tirer de la photographie, bon on peut, etc. etc. Mais il n'empêche que sur Baudelaire, non, Baudelaire n'est pas un farouche opposant de la photographie, il est simplement un farouche opposant de la photographie comme reconnaissant la photographie une autonomie de valeur artistique. Mais en revanche, il a tout à fait conscience que c'est un des moteurs du développement du modernisme, comme il l'appelle de ses voeux, et dont il pense que voilà, l'artiste devrait être moderne, ne sera pas, etc., etc. Bon, mais en revanche, c'est vrai qu'il lui dénie le droit d'être considéré sur le même plan que la peinture. C'est-à-dire qu'il est, pour lui, il est quasiment pas pensable qu'on puisse faire comme le salon d'automne ou un salon de la photographie. Il y a eu des projets de salon de photographie au 19e siècle qui ont peu ou prou tous échoué. Mais c'est sûr que c'était pas pensable pour eux. Bon, après, tous ces gens sont pétris et nourris de contradictions, ce qui évidemment complexifie encore plus la chose. Mais sur les rapports d'influence réciproque photo-peinture, ils sont permanents. Et ce qui veut pas dire, mais c'est deux choses. Il faut pas, enfin, il y a le rapport d'influence réciproque qui est plus ou moins d'ailleurs conscient ou totalement inconscient, et il y a la volonté des photographes, ou en tout cas d'un certain nombre de photographies, de dire, voilà, nous on fait de la photographie, vous faites de la peinture, mais nous on fait de la photographie, on en fait exactement de la même manière que vous, et on veut le même rapport de reconnaissance. C'est pas tout à fait pareil. Que nombre de peintres, maintenant c'est très avéré, que la plupart d'ailleurs des peintres aient été sous l'influence de la photographie, où on sert de la croix, enfin je pourrais en citer une quantité astronomique de peintres qui ont utilisé la photographie comme modèle, mais comme modèle de mimétisme. C'est-à-dire que, effectivement, pour eux, pour Delacroix, c'était plus facile d'avoir 10 photographies de nus masculins devant les yeux que de faire convoquer 10 nus pendant une semaine dans son atelier. Donc il y avait aussi des rapports de simplicité. Donc il faut quand même se méfier aussi sur les rapports d'influence, tels qu'ils peuvent être évoqués. C'est-à-dire que les rapports d'influence, ce n'est pas forcément des rapports d'influence positives ou en tout cas qui enrichissent le débat dans un sens. Ça peut être aussi des rapports d'influence très basiques comme celui que je viens de citer. Donc bon, mais c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant sur la deuxième question sur le jugement esthétique de photographies qui n'ont a priori pas vocation à l'être puisqu'elles sont d'un témoignage journalistique et qu'on leur attribue des prix et que ça c'est plus moi là-dessus j'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas d'avis mais c'est certain qu'à partir du moment où on commence à mettre des prix qu'on veut récompenser des photographies et que on s'aperçoit que dans le temps on récompense toujours un peu le même type de photographie, c'est-à-dire on donne des prix d'esthétique à des photographies qui représentent la misère du monde. Bon, ça moi j'y peux rien, enfin je veux dire non mais c'est déplorable mais c'est comme ça. Bah oui, mais tu veux prendre, enfin bien sûr, mais à partir du moment où on fait un prix, je veux dire, si on ne juge pas sur la qualité, sur le critère artistique ou esthétique, ou appelons-le comme on veut, on pourra essayer de prendre tous les biais possibles pour contourner, pour éviter de... Mais on n'y arrivera pas, on ne va pas dire. Ou alors, c'est quoi? C'est celle qui évoque le plus la misère dans le monde ou, tu vois? Je pense que même l'idée même de faire un prix, l'idée même de faire un prix est une stupidité. Bon, mais ça c'est mon avis, mais... Ah bah oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu juges une production, tu juges un livre, tu juges une peinture, enfin, tu juges une production, tu la juges selon des critères de jugement. Or, ces critères de jugement, ils sont esthétiques, pas forcément esthétiques au sens très vaste, très large du terme.
c'est-à-dire beau, pas beau, bien, pas bien. Enfin, c'est sur un jugement de morale, de valeur, de bon, appelons-le comme on veut, mais donc il n'y a pas de possibilité de juger, je veux dire, ex nihilo de critères de jugement qui nous sont tous communs. Donc, alors oui, on leur applique des critères esthétiques, oui. Ce qui est probablement un non-sens, je te l'accorde, quand il s'agit de juger de la valeur d'une photographie qui représente une horreur de la guerre. Mais et voilà.
Oui, je voulais tracer un parallèle justement entre le début de la photographie et le début du cinéma. En l'occurrence, surtout lorsque j'ai assisté au musée des Frères Lumière, les premières épreuves des Frères Lumière qui quand même avaient un côté artistique, notamment dans les règles de composition, qui sont presque toujours d'actualité. Donc au niveau des photographes, dont vous venez de parler des artistes, vous avez donné en dernier lieu l'Artigue. À partir de quel moment, justement, il y a eu cet art de composition qui ont pu révéler l'art artistique de la photo? Parce qu'au départ, c'était simplement faire des photos d'un truc. À un moment donné, il y a un art de composition, la règle qui rentre en ligne de compte en disant c'est plus un peintre qui va faire de la photo, mais c'est le photographe qui va faire quelque chose, qui va faire un art.
Mais là, je serais tenté de vous répondre par l'absurde, il n'y a pas de règle.
Non, mais je veux dire, à partir de quel moment ?
Il n'y a pas de moment. Encore une fois, si on lit l'histoire à rebours comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire on prend les 150 ans de la photographie, moi je vous ai montré des photographies dans des daguerréotypes qui sont des choses, à mon sens, merveilleuses, qui sont des merveilles de composition. Maintenant, est-ce que c'est intentionnel ou accidentel ? Ça, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est toujours... Enfin, moi, à mon avis, ce qu'il faut distinguer, c'est... Les critères, ils sont difficiles à établir. Il n'y a pas une époque où on dit, tiens, maintenant on fait de la photographie artistique parce que c'est conscient et que c'est assumé et que c'est intentionnel. Et puis avant, on faisait des choses et on savait pas trop ce qu'on faisait et voilà. C'est exactement le problème, c'est Eugène Hadjet. Eugène Hadjet, c'est vraiment l'exemple le plus classique. C'est-à-dire que lui, il fait de la photo sans aucune intentionnalité. En tout cas, on n'a pas une ligne. Enfin, il a rien laissé. Donc, de toute façon, on n'a rien. Donc, on ne peut que supposer. Mais il est probable, il est certain qu'il n'y avait pas d'intentionnalité artistique chez Hadjet, mais il est également certain qu'il savait quand même ce qu'il faisait. Bon, alors après, aujourd'hui, on peut dire, putain, regardez, c'est super bien composé, c'est magnifique, il savait exactement ce qu'il fait, c'est un artiste, c'est formidable. Si on compare à l'aune de ce qu'il faisait ses contemporains à l'époque, il a un temps d'avance, il est... bon, etc., etc. Mais ce critère-là, c'est un critère de réception. C'est-à-dire, c'est moi aujourd'hui qui décide ça parce que aussi j'ai 150 ans d'image dans la tête et que je sais que Hadjet, en 1900, il n'y a pas d'équivalent de son époque. Bon, mais lui, il l'ignore. Je veux dire, ou pourquoi en 1910, ils vont tous faire ce qu'a fait Hadjet? Mais celui-là, il l'ignore parce qu'il est mort. Donc, enfin, vous voyez? Mais sur les, il n'y a pas de rupture. Le problème en l'histoire de l'art, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Ça n'existe pas. Souvent, je sais qu'on a tendance à penser que voilà, l'impressionnisme, ça marque une rupture. C'est pas vrai, c'est jamais des ruptures, c'est toujours des passages en douceur, c'est toujours des retours en arrière, souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La Renaissance, par exemple, on dit souvent que c'est la découverte de la perspective. Mais c'est une absurdité sans nom, c'est pas la découverte de la perspective. C'est éventuellement une redécouverte ou une application de la connaissance de la perspective à la peinture. Mais c'est pas pareil. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui était descendu de sa colline et qui avait dit, tiens, j'ai découvert la perspective, et hop, on va l'appliquer à la peinture. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je peux pas répondre à cette question-là en disant, voilà, à partir de 1920, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est vraiment selon les époques, selon la connaissance contemporaine qu'ont les gens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des influences qui s'exercent, hein, du monde qui, enfin, on est entouré. C'est sûr, par exemple, l'apparition des voitures électriques des voitures à moteur dans la rue, ça va modifier un certain nombre de choses. Ça n'existait pas avant, donc là, ça introduit par exemple des notions de vitesse. La vitesse, ça peut être idiot, mais on la concevait pas comme ça. Donc à partir du moment où on introduit des notions de vitesse culturellement, eh ben ça va avoir des influences sur la représentation. On va représenter la vitesse. Par exemple, le futurisme russe va représenter la vitesse. Va chercher vraiment à matérialiser en peinture la vitesse, quelque chose qui était impensable 30 ans avant. Bon, mais ça c'est parce qu'il y a une évolution de la société. Vous voyez ? Donc il y a pas de c'est difficile de répondre à votre question. Aujourd'hui, on ne photographie pas ou on ne représente pas. J'aime pas dire que de réduire ça qu'à la photographie. On ne fait pas du cinéma aujourd'hui qu'on en faisait dans les années 70. Et inversement, bon. Et pour autant, on peut pas dire qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier ou que c'est différent ou que c'est compliqué. C'est compliqué.
Je suis profondément convaincue que la photographie est un art, mais j'ai l'impression que dans notre société actuelle, c'est encore pour beaucoup de personnes un art mineur par rapport à la peinture. Non ?
Oui, enfin, que puis-je répondre à cela ?
Est-ce qu'un jour la photographie sera.
Mais je pense que c'est je pense qu'il ne faut pas se poser la question en ces termes-là. Je pense que c'est une erreur de vouloir se dire que c'est exactement ce qui est arrivé. Enfin, c'est-à-dire, continuer à être dans ce débat-là, à se dire, je vais vraiment caricaturer à l'envi, mais oui. À dire finalement, mais la photographie, ça mérite mieux que ça. C'est-à-dire dire, mais c'est quand que la photographie ce sera comme la peinture, on n'y arrivera jamais. C'est pas comparable, c'est pas la même chose, et je pense qu'il faut arrêter de raisonner comme ça. C'est-à-dire dire, c'est exactement ce qu'ont fait les pictorialistes, etc. C'est-à-dire, c'est un art mineur, nous on veut l'élever à quelque chose de plus grand, de plus beau, etc.
Ça ne sera jamais un art considéré comme la peinture.
Le problème c'est que vouloir considérer la peinture comme, enfin, la photographie comme la peinture, ce serait admettre que la photographie c'est comme la peinture.
Non.
Or le problème c'est pas du tout pareil.
Non mais c'est pas pareil.
Mais c'est pas pareil. Donc ça peut pas être. Le problème aussi qu'il faut reconnaître, c'est que la photographie c'est un art très jeune, ça a 150 ans d'existence, un peu plus, et que la peinture c'est quand même des millénaires. Donc je veux dire, c'est pas tout à fait comparable en termes de. Par ailleurs, il y a des musées de peinture, il existe très peu de musées de photographie. Il y a un enseignement en histoire de l'art de la peinture, il n'y a pas ou peu d'enseignement d'histoire de l'art de la photographie. Etc., etc. Donc, ça n'a pas les mêmes histoires et ça n'a pas les mêmes vécus. Donc, faut pas chercher, à mon avis, je pense que c'est une erreur d'agir comme ça. Il faut mieux considérer que la photographie a ses propres spécificités, qu'elle a ses propres avantages et ses propres inconvénients, et que il faut l'aborder selon sa propre spécificité. Mais faut pas en chercher à en faire ce qu'elle n'est pas. Enfin, ça c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi.
Non, mais j'ai l'impression qu'elle a la même valeur artistique qu'un tableau. Et qu'en général, les gens donnent beaucoup de valeur à la peinture, un tableau, ils vont acheter un tableau, c'est quelque chose de magnifique qui va durer longtemps, qui a de la valeur, et pas une photo.
Oui, mais il y a des problèmes de sacralisation par rapport à la peinture, ça c'est certain, mais il y a peut-être un problème de dévalorisation de la photographie, ça je sais pas, mais ce qu'il faut, moi je en allant à l'opposition de ce que vous dites, d'abord la photographie c'est un multiple, ensuite ça se conserve pas très bien dans le temps,
vrai, bon,
etc., etc. Donc si additionner tout ça, c'est sûr que ça n'est pas en faveur de la photographie. Ouais. Bon, par ailleurs aujourd'hui la photographie maintenant il y a un saut technologique qui s'est opéré avec le numérique. Bon, je veux pas rentrer dans ce débat là, mais donc on a basculé vers autre chose maintenant. Donc on bascule, l'évolution technologique fait évoluer les critères d'appréciation de la photographie. La peinture, elle connaît pas ça, ou elle le connaît moins, en tout cas dans une moindre mesure. Elle, ce qui lui pose problème à la peinture, enfin ce qui lui pose problème entre guillemets, c'est son évolution de représentation. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un siècle, elle est passée du réalisme, du naturalisme, que ça dépend comment on l'appelle au 19e siècle, à l'abstraction pure aujourd'hui. Et encore, quand je dis en 100 ans, en fait, c'est pas vrai. Si on va de Monet à Malevitch, c'est 40 ans, et de 40 ans, on passe de quoi à quoi? On passe de la cathédrale de Rouen à blanc sur blanc. Donc, je veux dire, c'est plus violent.
D'accord.
Je profite du blanc. Est-ce qu'il y a des études ou bien est-ce qu'on sur le rapport entre la photographie et la mémoire qu'on a de cet instant, de la représentation presque d'image de mémoire qu'on peut avoir d'un instant vécu et de la lecture qu'on a de la photographie de cet instant.
Sûrement, mais ça ne m'intéresse pas, alors je ne suis pas au courant. Non, je dis sûrement parce que j'imagine qu'il y a un ou deux phénoménologues qui ont dû se pencher sur la question, mais je suis pas vraiment féru de ce genre d'approche. Alors non, très honnêtement, j'en sais rien du tout. En tout cas, de moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est du côté purement historique, c'est-à-dire des historiens de la photographie ou des historiens de l'art. Ça ne s'est pas posé comme ça. Mais je suis sûr que ça existe. En cherchant bien, on trouve tout. Alors.
Parce que pour les personnages qu'on a vus se faire photographier, que ce soit des écrivains ou d'autres artistes, est-ce qu'il y avait aussi cette la même chose qu'on trouve dans le portrait de la peinture, hein, d'ailleurs, mais cette idée d'immortaliser leur posture d'artiste.
Ah, très certainement. Enfin, il y a en tout cas une volonté manifeste d'abord de diffuser leur propre image auprès d'un large public, ça c'est clair et net. Ce qui est frappant également, c'est de noter que certains des artistes, des grands artistes de l'époque, on n'a aucune trace photographique, ni d'ailleurs de trace ou si peu de peinture ou dessin. Donc il y a des gens qui restent dans le quasi anonymat de la représentation. À l'inverse, d'autres sont Hugo, par exemple, c'est fou tout ce qu'il y a comme photographie. Il s'est fait photographier sur 30 ans, il doit exister, je sais pas, 500 portraits différents. Bah, ce qui est phénoménal, ce qui est complètement fou. Bon, mais lui, il était dans un autre rapport. Il était en exil. C'est quelqu'un engagé politiquement et qu'il avait envie de diffuser son image sur le continent pour montrer qu'il existait toujours, etc., etc. Mais c'est vrai que par exemple Flaubert, on connaît une photo, au revoir, merci. Et on connaît une photo, deux peintures, trois dessins et Rimbaud, c'est pareil. Rimbaud, on a une photo. Donc, je veux dire, il y a comme ça des gens qui n'ont pas été photographiés. Alors, on peut toujours dire que c'est hasard par hasard, mais en fait, si les autres, c'est pas vrai. Ils n'ont pas voulu se faire photographier.
Alors, peut-être pour donner l'eau à la bouche pour la conférence de l'an prochain, puisque tu en parlais, sur l'utilisation des images, par exemple, de la photographie scientifique par les avant-gardes, est-ce que tu peux en dire quelques mots, même si on n'a plus les images, sur la façon dont ça va se... Par exemple, par le surréalisme...
Ça, c'est les rapports d'influence de photographie à photographie. C'est-à-dire, là, on parlait des rapports d'influence de la peinture et de la photographie. Là, il y a manifestement, sur les avant-dernières images qu'on a vues, c'est-à-dire pas sur le pictorialisme, mais sur les images, je pense notamment aux contre-plongées de la Tour Eiffel et des choses comme ça, qui sont faites par des amateurs totalement inconnus. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que c'est les images 20 ans après, faites Molinage ou Rodchenko, enfin tout le constructivisme russe par exemple dans les années 15, 20, 25 en Russie fera exactement le même type d'image. Sauf que là ce seront des images qui seront publiées, qui seront faites à véritable prétention artistique et qui seront en plus masquées par une idéologie politique. Donc c'est un petit peu différent. Mais c'est de voir qu'effectivement 30 ans avant c'est déjà fait par les amateurs. Alors la petite différence c'est qu'évidemment c'est toujours problématique de... Je sais qu'on entend souvent, tiens, cette image annonce ou anticipe ce qui se fera 30 ans plus tard. Alors, les problèmes d'anticipation en histoire de l'art, c'est super compliqué. Parce que soit, en effet, c'est des images qui ont été extrêmement publiées. Et, par exemple, on peut dire, Man Ray a vu ça publié, qui a été fait 30 ans avant, donc il l'a vu, donc il sait ce que c'est, donc il y a un rapport d'influence évident et il s'en réclame. Soit, simplement, il y a les époques qui font que il y aura 20 ans avant quelqu'un qui crée une forme de manière inconsciente et que 30 ans après, une personne de manière totalement consciente va créer une forme qui est lui totalement assumée et consciente et dont il va réclamer la paternité. Et après, les historiens vont dire mais non, 30 ans avant, on fait ça, donc, etc., etc. Ça, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que dans le livre sur la science que j'ai fait, ce que je montre, c'est que c'est des images qui sont étonnantes visuellement. C'est-à-dire que c'est des espèces de choses intemporelles, indatables, complètement abstraites, et que moi, la première fois que je les ai vues, je me suis dit, c'est génial, on dirait du Man Ray. Ou c'est génial, on dirait des avant-gardes artistiques, on dirait de la peinture, etc. Et puis à un moment, c'est pour ça que j'ai fait le livre avant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai en face de moi? Et en fait, je ne savais pas ce que j'avais en face de moi, je ne savais pas ce que je regardais. Et c'est quand je me suis intéressé à la contextualisation des œuvres, c'est-à-dire pourquoi elles ont été faites, par qui, qu'est-ce qu'elles montrent, que je me suis dit, mais en fait, on se trompe complètement en regardant ces images, en ne se mettant que dans la tête, tiens, on dirait ça, on dirait ceci, on dirait cela. Parce que c'est très tentant, en effet, d'avoir, à un moment, vous avez vu l'explosion électrique, là, où il y a une espèce de photographie d'électricité. Bon, André Breton, dans le Manifeste du Surréalisme, à un moment, reprend une image qui n'est pas celle-là, mais qui est une image relativement identique et qu'on a retrouvée d'ailleurs, et dont il se sert en couverture de la Révolution Surréaliste, dans un numéro, pour expliquer que c'est comme ça que c'est sa définition de l'écriture automatique. C'est-à-dire, l'écriture automatique se produit dans la pensée de manière automatique comme ça. Et il publie une photographie scientifique d'éclair. Alors, évidemment, on se dit, génial, c'est une photo. Alors, moi, je vois la photographie, je pense tout de suite à Breton. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord se dire, cette photographie, c'est une photographie faite par un scientifique dans un cadre scientifique pour une finalité scientifique. Et ça n'a pas du tout une finalité d'équivalent, je veux dire, enfin, mémoriel pour les surréalistes. Donc c'est toujours faire attention à ce qu'on voit, toujours. Enfin, toujours se poser au préalable la question, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça a été fait, par qui ça a été fait, dans quel cadre. Et après, éventuellement, se dire, tiens, ça a été repris par tel ou tel. Mais voilà, mais ça, c'est... Les rapports de l'influence, ça dépend comment on les lit, hein, c'est toujours pareil. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place.
Est-ce qu'on peut peut-être mettre en relation un élément commun à la photographie et à l'art qui serait un petit peu face à l'angoisse existentielle avec le temps qui fuit, de fixer un instant du temps? Et en même temps, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que ce n'est pas finalement le perpétuel questionnement sur l'art qui n'a jamais reçu de réponse définitive?
Ouh là là, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais disons que... Non, enfin... Écoutez, ça, moi, je sais pas que je sais pas y répondre.
C'est le côté philosophique, en fait.
Non, oui, mais... les premiers écrits théoriques sur la photographie ne portaient que sur ça. C'est-à-dire que Roland Barthes, La Chambre Claire, c'est... Tout son bouquin, c'est sur ça. Moi, j'ai un peu dépassé ça. Bah, c'est-à-dire que ça m'intéresse plus tellement. Parce qu'une fois que j'ai dit, voilà, la photographie, ça fixe le temps, et effectivement, c'est mémoriel, et c'est bon, qu'est-ce que j'ai... Enfin, bon, voilà, j'ai rien dit de plus.
Il y a bien eu des milliards de gens à travers les millénaires qui n'ont jamais été photographiés.
Ah non, mais j'entends bien, mais là, on parle pour la photographie, parce que c'est vrai que la photographie a cette espèce de spécificité quand même, qu'il est... c'est un enregistrement du réel et qu'il est plus saisissant que la. Enfin, pour les gens qui sont photographiés, qui sont morts, et puis que c'est un temps. La peinture, si vous voulez, vous. Enfin, la grande différence entre la peinture et la photographie, c'est deux choses. C'est que la photographie, vous saisissez, vous arrachez une portion du réel. C'est-à-dire que vous avez un cadre qui s'appelle l'appareil photographique. Alors après, le viseur, le 24-36, etc. Vous faites une ponction. D'accord? C'est-à-dire que le fait d'avoir cadré monsieur comme ça et pas comme ça, j'ai déterminé, moi, Denis Canguilhem, que je prendrais cette portion du monde. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est instantané. La peinture, c'est indifférent. Vous avez un cadre, c'est-à-dire un cadre préétabli, c'est-à-dire la toile, et vous construisez du monde dessus. Vous l'arrachez pas, vous le mettez dessus. Et c'est du temps. Bon. Donc, c'est vrai que dans la photographie, on a toujours dit, comme c'est instantané, enfin, le rapport au temps est différent qu'avec la peinture. Et c'est pour ça qu'il y a cette spécificité de la photographie. On se dit toujours le temps, le rapport du temps, de la mort, de la photographie. On a toujours fait ce lien entre temps mort et donc photographie mort. C'est un peu ça. Barthes, etc. a fait. Alors, bon, mais une fois, encore une fois, que moi, j'étais très intéressant quand je faisais mes études, mais maintenant, je me dis, bon, voilà, je le sais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une photographie, je me dis pas, tiens, c'est un. Enfin, j'ai l'impression de voir de la mort devant moi, quoi. Non, parce que c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que ce qu'on voit, c'est des gens qui sont décédés, qui sont morts, et donc on voit la mort, et donc on voit du temps, bon, arraché au temps. Voilà. Mais
qu'est-ce que l'art ?
Qu'est-ce que l'art ? Ouh, alors je ne sais pas répondre à cette question, moi. Aucune idée. Très sincèrement, je n'en ai aucune idée.
J'arrive. En essayant de ne pas me prendre les pieds cette fois-ci.
Bon, je ne sais pas trop comment poser la question, mais on voit que la peinture, finalement, a mis beaucoup de temps à évoluer, à cause d'académies peut-être de peinture qui fixent des règles, qui restent très classiques. L'impressionnisme, par exemple, qui fait scandale, etc. La peinture n'a pas envie beaucoup que ça bouge, quoi, finalement, surtout au 19e siècle, tout ça. Alors que la peinture, on sent que la photo, plutôt, donne plus de liberté parce que, justement, elle n'est pas considérée comme un art. On a l'impression que ça évolue très vite. Bon, certainement aussi à cause des découvertes scientifiques, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que la photo, finalement, devient un art grâce à cette liberté qui est offerte, finalement?
Alors, c'est une question très intéressante qui pourrait apporter plusieurs réponses. Mais alors, d'abord, il faut noter, on peut pas... je comprends très bien qu'on pense que la peinture met du temps à évoluer. Enfin, évoluer, après, entendons-nous sur ce qu'on entend par évoluer, mais peu importe. Et c'est vrai que la photographie, elle est entre 1840 et 1900, c'est-à-dire en 60 ans, c'est un saut prodigieux. Mais c'est un saut prodigieux technique. C'est-à-dire qu'on aurait la même technicité qu'on a en 1900, en 1840, je ne sais pas ce qu'on aurait photographié, d'une part. Donc c'est que de la technique. Et la technique, elle influence énormément. C'est-à-dire qu'avec peu de technique, vous ne faites pas grand-chose. Avec beaucoup de technique, vous augmentez votre champ. D'accord ? Ensuite, c'est un siècle qui évolue rapidement. Le 19e siècle, on ne se rend pas compte historiquement, mais c'est de la folie. Enfin, c'est... plus vite, c'est nous aujourd'hui, mais je veux dire, le 19e siècle, c'est vraiment une véritable accélération en termes d'industrialisation, de saut technologique, de saut culturel par rapport au 18e siècle, au 17e siècle et même au 16e siècle. C'est-à-dire qu'en quasiment l'espace d'un demi-siècle, on fait l'équivalent, hein, si c'était mesurable, avancée technologique qu'on fait en 4 siècles auparavant. Bon, donc ça compte beaucoup. Ensuite, la peinture, si on regarde bien, elle va évoluer quasiment aussi rapidement que la photographie dans le même espace donné. C'est-à-dire qu'entre 1850, entre Ingres, c'est-à-dire Ingres portrait Turand à la fin des années 1830, et 1900, où c'est déjà les prémices, voire même plus que les prémices que de la peinture abstraite, ça va c'est une comète. Alors il y a plein de théories l'une des théories, ce qui permet d'affirmer que la peinture s'est libérée, c'est la photographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la photographie est venue sur le champ de la peinture en disant, écoutez, vous avez pu les portraits, c'est fini, les paysages, c'est fini, enfin tout ce qui vous embêtait entre guillemets avant, maintenant on s'en occupe. Et ben maintenant, la peinture, elle s'est retrouvée finalement contre son gré ou grâce à la photographie, libérée d'une contrainte de représentation. Alors, l'une des théories, c'est de dire que la photographie a libéré la peinture et que la peinture, c'est finalement a basculé vers autre chose. C'est-à-dire qu'elle a pu ce besoin de représentation, ce qui lui était avant dédié, c'est-à-dire la représentation, le mimétisme, le réalisme, le naturalisme. Alors ça, c'est propre au 19e siècle, hein, parce qu'avant, c'est un petit peu différent. Une fois qu'on lui a enlevé ça, elle se dit, bon, bah, qu'est-ce qui me reste? Ou alors, au contraire, génial, j'ai plus ça à faire, donc éclatons-nous, quoi. Bon, c'est caricaturé, hein, c'est évidemment plus compliqué que ça. Voilà, mais la photographie, elle serait née au 16e siècle, enfin, remarquez si elle était née au 16e siècle, on ne se poserait pas la question, mais probablement, à une autre époque, elle aurait évolué comme un escargot. Là, il simplement... C'est un début technologique. C'est en 30 ans, c'est rien pour une invention d'arriver à maturité. C'est très peu, en fait. C'est très peu.
Je voulais vous poser une question. La photographie a très souvent été manipulée. Je pense, par exemple, lorsqu'on faisait disparaître des personnages tombés en disgrâce, on les évacuait du document photographique. Et puis, aujourd'hui, on a une utilisation de la photographie qui est extrêmement... qui m'interpelle personnellement. Puisqu'on parle de photographie volée qui se commercialise à des prix épouvantables, ou bien tout simplement l'utilisation qui est faite de la photographie à partir de téléphones qui sont capables de prendre des photos, etc. Donc est-ce que la photographie ne risque pas de poser des problèmes d'éthique? Enfin, l'utilisation qui en est faite.
Bah, oui, voilà. C'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt l'usage qui en effet qui pose des problèmes d'éthique. Sur les modes d'obtention des images, oui, aujourd'hui on peut en faire avec un téléphone portable. Sans doute demain on en fera avec sa montre et sûrement après-demain on en fera avec ses yeux. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas jusqu'où ira, mais il y a probablement pas de limite. Donc ça, l'évolution technologique de l'obtention des images, bon, ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut ne pas être d'accord. Moi, ça me tombe des mains de faire une photo avec un appareil portable, avec un appareil photo, mais bon, c'est comme ça. Sur l'usage qu'on en fait et sur la diffusion, c'est-à-dire les deux problèmes aujourd'hui, c'est effectivement, les usages posent un problème, mais c'est surtout les modes de diffusion qui posent des problèmes. Si bien évidemment aujourd'hui on peut faire une photo avec un téléphone et qu'en appuyant sur le second bouton, elle part instantanément à l'autre bout de la planète, donc un peu n'importe où. Bah, c'est l'accélération de la diffusion qui pose des... Enfin, qui, tant que ce ne sera pas maîtrisé, ça posera des problèmes. Mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'en général, les évolutions technologiques aussi rapides ont la fâcheuse tendance à dépasser leurs utilisateurs. Et c'est-à-dire qu'après, il faut trouver des cadres juridiques, des cadres légaux. C'est un peu effectivement fâcheux qu'à chaque fois, il faille normer et normaliser tout ça par des cadres juridiques ou autres, mais que c'est un peu pénible. Mais je crois que la vraie problématique, elle est liée à l'usage qu'on en fait, en effet. On peut pas empêcher des gens de vous photographier dans une situation inconvenante et d'appuyer sur un bouton et de la faire circuler et que cette troisième personne la fasse circuler qu'elle atterrisse dans un journal. Enfin bon, si on pousse à l'extrême, mais voilà. Mais ça, ça a toujours été ça. Les paparazzi, dans les années 50, en Italie, c'était ça. La photographie volée, truquée. Enfin, là, c'est autre chose, parce que c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que sous l'époque stalinienne, on avait tendance à masquer. Il y avait un opposant au régime qui avait été en odeur de sainteté dans les années 20. Et puis, l'année suivante, il n'est plus en odeur de sainteté. Donc, hop, on l'enlève. Bon, voilà. Mais ça, c'est de la, ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la manipulation de l'image et c'est, ça, c'est de la manipulation sur la vitesse de propagation des images, la vitesse d'obtention et l'usage un peu torfe qu'on puisse en faire. Ça, c'est autre chose. Mais là-dessus, je peux pas, enfin, j'ai pas tellement d'avis. Simplement, je peux constater comment ça se passe. C'est tout.